France Inter, le 6-9 de l'été.
Il est 7h48, l'Union européenne et le Royaume-Uni négocient cette semaine pour déterminer les conditions du Brexit. Leur divorce, c'est le deuxième round de discussion à Bruxelles. Bilan demain, il reste 15 mois pour boucler les négociations jusqu'en octobre 2018 afin de laisser du temps pour la ratification de l'accord final par toutes les parties concernées d'ici fin mars 2019. Dans les studios de Radio France à Bruxelles, pour comprendre ces négociations sur le Brexit, Pierre Vimont est avec nous. Chercheur associé à la Fondation Carnegie Europe. Bonjour Pierre Vimont.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Vous avez été ambassadeur de France à Washington de 2007 à 2010, secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure de 2010 à 2015. Est-ce qu'il y a une possibilité de négocier sur plusieurs types de Brexit, un Brexit dur, hard ou alors soft, plus doux ?
Oui, bien évidemment, ce sera le résultat de la négociation. D'ailleurs, le point de savoir si on sort avec un Brexit dur ou un Brexit mou. La difficulté, bien sûr, pour les négociateurs européens, c'est de comprendre exactement ce que veulent les Britanniques. Et à l'heure actuelle, en particulier parce que le gouvernement conservateur est dans une situation politique difficile après les élections où il a perdu la majorité, on a un peu de mal à discerner quel est l'objectif réel des autorités britanniques sur le résultat final de cette négociation.
Alors cette négociation, il faut le rappeler, c'est trouver un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier que les Britanniques quittent l'Union européenne, mais pas l'Europe.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et Madame May l'avait elle-même déclaré dans un discours qu'elle avait fait au début de l'année à Lancaster House en disant que ce qu'elle voulait, c'était garder des liens très étroits avec l'Union européenne et définir un partenariat pour le bénéfice des deux parties. La difficulté, là encore, il y en a une majeure, et que les Britanniques n'ont peut-être pas tout à fait compris qu'avec ce divorce, ils ne seront plus à la table de négociation. Ils seront en dehors de l'Europe. Et que donc, lorsqu'ils disent qu'ils voudraient essayer de garder tous les avantages qu'ils ont à l'heure actuelle, il y en a un qu'ils n'auront plus et qui est absolument fondamental, c'est que tout ce qui sera décidé à Bruxelles, à partir du moment où ils auront quitté l'Union européenne, se décidera sans eux.
Mmh. Pierre Vimont, Les 3 millions de ressortissants européens vivant en Grande-Bretagne et les Britanniques établis sur le continent, est-ce qu'ils ont du souci à se faire ?
C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire du souci dans la mesure où, pour le moment, on ne sait pas quel est le droit qui régira leur situation à partir du moment où la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne. Les Britanniques, dans les premières propositions qu'ils ont mises sur la table, disent très clairement, à partir du moment où nous avons quitté l'Europe, ces ressortissants européens vivant en Grande-Bretagne relèveront du droit britannique et des tribunaux britanniques. Et Michel Barnier, qui dirige la négociation du côté des Européens, dit pas du tout. Il faut que les citoyens européens continuent à bénéficier du droit européen et bien évidemment du contrôle de la Cour européenne de justice. Donc vous voyez, il y a un fossé entre ces deux approches et il va falloir trouver des compromis. C'est l'un des nombreux problèmes qui se posent aujourd'hui dans cette négociation.
Alors Pierre Vimont, comment va s'établir la facture du Brexit pour le Royaume-Uni ? Quels sont les éléments qui vont constituer l'addition pour les Britanniques ?
Eh bien, il y aura d'une part tout ce sur quoi s'était déjà engagée la Grande-Bretagne lorsqu'elle était, et ce qu'elle est encore d'ailleurs, membre de l'Union européenne. Vous savez que tous les 5 ou 6 ans, on établit un programme de financement de toutes les grandes politiques européennes. On appelle ça le cadre multilatéral de financement. Et la Grande-Bretagne a souscrit au dernier cadre financier qui a été mis en place en 2014 et qui va jusqu'en 2020. Et donc les Européens disent à la Grande-Bretagne, vous avez adopté ce programme, il faudra payer jusqu'au bout, il n'y a pas de raison que nous soyons les victimes d'un divorce. S'ajoute à ça tous les investissements, toutes les prises de participation que les Britanniques peuvent avoir, et ça s'ajoute à ça et ça donne un résultat qui se chiffre entre 60 et 100 milliards d'euros.
Oui, la somme de 100 milliards d'euros circule. Vous pouvez Absolument. Toujours courir, c'est ce qu'a répliqué tout récemment Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères. Mais 100 milliards d'euros, ça vous semble crédible ?
C'est mettre la barre très haut. Les Européens le savent à certains égards. C'était la solution la plus facile pour eux entre ceux des États membres qui ne souhaitent pas payer à la place des Britanniques une fois que ceux-ci auront quitté l'Europe, et les autres États membres qui, eux, veulent continuer à bénéficier de tous les avantages financiers qu'ils ont à l'heure actuelle. L'intérêt de tous, donc des 27 autres, c'est de faire payer les Britanniques le plus longtemps possible. On sait très bien que dans une négociation de ce type, à la fin, il faudra trouver un accord et il y aura une cote plus ou moins bien taillée. On le sait bien et ceci est accepté par tous. Mais là encore, il faut entrer dans la négociation. Or, Boris Johnson, avec tout le respect que je lui dois, répondre « vous pouvez toujours courir » ne règle pas le problème. Il va falloir bien se mettre autour de la table. Je note d'ailleurs que la Première ministre britannique a une position un peu différente de celle de Boris Johnson et a reconnu que la Grande-Bretagne devait payer quelque chose.
Un dossier sensible aussi, c'est la pêche. Hein. Nous voulons, nous les Français, que les pêcheurs français aient toujours accès aux eaux côtières britanniques.
Tout à fait. Et ça va être un grand sujet.
Avez-vous le sentiment, Pierre Vimont, que les électeurs britanniques ont voté pour le Brexit sans réaliser vraiment les conséquences de cette rupture, parce que les deux grands partis, conservateurs et travaillistes, se sont bien gardés d'expliquer les conséquences de ce Brexit?
Exactement. La campagne autour du référendum du Brexit a été une campagne faite de slogans populistes de la part des uns et des autres, et finalement n'a pas permis un vrai débat de fond. Et en réalité, à mesure que les Britanniques découvrent tous les enjeux et tous les risques pour leur économie et même pour leur vie quotidienne d'une sortie de l'Union européenne, ils commencent à se poser des questions. Et ceux qui, depuis le début, leur avaient expliqué qu'en réalité, déjà aujourd'hui, dans la situation actuelle, la Grande-Bretagne bénéficiant d'un certain nombre de dérogations, elle était en fait dans la meilleure des situations possibles. Elle avait un pied dedans et un pied dehors. Beaucoup disent on ne trouvera jamais mieux que la situation actuelle.
Merci Pierre Vimont, je rappelle, chercheur associé à la Fondation Carnegie Europe dans les studios de Radio France à Bruxelles, 8h05.